En deux mots, je vais présenter Jean Réville. D'abord, qu'est-ce qui a fait qu'on a créé cette association et comment on fonctionne? Alors, qu'est-ce qui a fait qu'on a créé cette association? D'abord, parce qu'on arrivait d'un champ féministe. Donc, c'est une association que j'ai cofondée avec Pascal Appalu, qui est géographe, urbaniste et designer de la ville. Moi, j'ai une approche qui est plus sur une analyse ethno-sociologique à la fois du féminisme et aussi des territoires. Et donc, nous avons croisé ces champs-là pour créer Jean Réville, en se disant qu'à travers, et je crois qu'on voit bien à travers la littérature, à travers le champ construit de la ville, on pourrait sans doute mettre en lumière ce qui se passe en termes d'inégalité et qui est parfois pas toujours palpable, alors que là, sur un espace construit, on peut lire, compter, identifier. Donc ça a été un peu, au départ, pensé comme un outil, mais aussi comme un champ des possibilités, puisqu'on voit bien que il y a aujourd'hui énormément de termes qui s'envolent un peu dans tous les sens autour du vivre ensemble ou une autre façon de faire ville, et qu'on s'est dit que c'était une bonne opportunité dans ce contexte-là de voir comment nous, à travers une analyse genrée, on pouvait peut-être aussi faire ville. Donc ça, c'est un petit peu le principe de départ. Après, comment on fonctionne? On est une plateforme de réflexion et d'action. Plateforme de réflexion, ça veut dire qu'à la fois, on va essayer d'engranger un maximum de matériaux pour comprendre comment la ville ou comment les territoires se sont construits et comment ils sont articulés. Et puis, de pouvoir remonter dans l'histoire, de pouvoir remonter dans les textes. Et en ce sens-là, c'est vrai que l'étude de la littérature, en particulier du 19e siècle, est pour nous d'une richesse infinie. Et ensuite, on est aussi une plateforme d'action, puisqu'il faut qu'on puisse aller sur le territoire, comprendre comment il fonctionne, pouvoir le regarder de près, travailler avec les personnes qui le font. On a trois articulations. On a un principe qui est transversal d'abord, c'est-à-dire qu'on regarde la ville non pas par silo, mais en essayant d'intégrer l'ensemble des composantes qui font ville, c'est-à-dire aussi bien la culture, les mobilités, le logement, l'économie, enfin tout ce qui fait que il y a une collectivité et une vie ensemble. Donc un champ transversal, un champ participatif, c'est-à-dire que il nous semble très très important de pouvoir à tout instant mixer à la fois les gens qui sont les personnes qui sont détentrices des usages et qui vivent la ville et de comprendre comment elles vivent cette ville de mélanger ça avec et de faire se rencontrer ces personnes avec les personnes qui font la ville, c'est-à-dire que aussi bien les urbanistes que toutes les articulations, les différents champs qu'on peut retrouver dans une collectivité locale par exemple. Donc travail participatif, et enfin principe itératif, c'est-à-dire que on s'aperçoit, et là on le voit bien à travers cette littérature du 19e siècle, que nous avons énormément de filtres de lecture, beaucoup d'injonctions qui nous ont appris à avoir un certain regard. C'est seulement en revenant sur les mêmes endroits en essayant des expériences sur les mêmes endroits et le faisant de façon itérative, en re-questionnant à chaque fois et ce qu'on y voit et ce qu'on est en train d'y faire, et de voir les effets positifs et potentiellement les effets pervers de ce qu'on est en train de faire, que l'on peut faire évoluer les choses. Donc je dirais que vraiment Jean Réville, c'est du transversal, du collaboratif et de l'itératif, pour faire un petit peu simple dans la façon dont on fonctionne. Après, c'était compliqué aujourd'hui de se dire sur quel champ je pars, parce qu'évidemment, de fait, on travaille sur un champ extrêmement large, on pourrait aborder énormément de sujets. Ce qui est important pour nous, c'est d'abord de faire un constat, c'est que ce qu'on lit au 19e siècle et ce qu'on voit au 19e siècle nous semble être encore très vrai aujourd'hui sur un certain nombre de points. Et j'ai fait un exercice, c'était il y a 2 ans maintenant, où j'ai pris en photo tous les bancs à Paris en allant de la station de Ménilmontant à la station de Belleville. En fait, j'ai pris les bancs et l'ensemble du mobilier urbain. Sur tout le mobilier urbain que j'ai croisé, il n'y avait que des hommes. Donc c'est entre 2 stations de métro et sur le boulevard de Belleville. Et il y a un moment juste où j'ai vu 3 femmes sur un banc, je me suis précipitée avec mon appareil photo, et le temps que j'arrive, elles étaient parties, parce qu'en fait elles attendaient le bus. Donc elles étaient juste assises sur le banc pour attendre le bus, et elles sont parties, et j'ai pas eu le temps de dégainer mon appareil photo. Tout ça pour dire que ce qu'on a vu dans les textes du 19e siècle est encore bien actuel aujourd'hui, et que si on prenait juste les bancs, quand on trouve des femmes, parce que quand même, heureusement, les femmes s'arrêtent sur les bancs, elles sont soit elles ne sont pas seules, elles sont en train de parler avec un homme, elles sont en train de lire, elles sont avec une copine, une collègue de bureau, elles mangent, elles lisent. Nous, on s'est posé une question, on s'est dit, mais que faire? Qu'est-ce qui se passe? On a une législation aujourd'hui en termes d'égalité qui est assez nourrie. On est arrivé à un stade de législation qui est sans doute encore très très imparfait, mais qui quand même impose un certain nombre de quotas dans les comités d'entreprise, enfin, dans les conseils d'administration, qui impose la parité en politique, qui impose une égalité des salaires, et pour autant, le gap n'est pas franchi. Et on se dit à quel endroit ça bloque. Donc nous, on s'y est intéressé plus sur le champ urbain, et on a commencé à essayer de soulever un certain nombre de choses. Et une des choses qui semble bloquer, notamment, c'est que les correctifs qui pourraient être apportés par rapport à une vision du 19e siècle ne semblent pas absolument fonctionner. Nous, on a travaillé notamment sur la question de la peur, puisqu'on a vu que l'usage dans l'espace public était conditionné, que les femmes, en tout cas, avaient appris à ne pas aller dans l'espace public parce que cet espace pourrait être dangereux. Et donc, on a commencé à faire un travail autour de ça. Alors, je voudrais reprendre un article pour parler justement de ces peurs. Et on dit « Si les peurs que les femmes disent éprouver sont liées aux violences à leur encontre, celles-ci n'ont pas besoin pour autant d'être perpétrées pour être efficaces, ou du moins dans leurs formes les plus extrêmes. De nombreux faits, qui peuvent parfois paraître anodins, fonctionnent comme de véritables rappels à l'ordre. La plupart des femmes ont vécu dans les lieux publics une expérience de nature sexuelle alarmante au cours de leur vie. Subir de tels actes peut avoir comme effet l'accroissement du sentiment de vulnérabilité physique lié au fait d'être une femme, représentation maintenue par les institutions, les campagnes de prévention de la violence, les médias. L'effet peut se combiner à la crainte d'être victime d'une violence sexuelle et de nombreuses brimades leur rappellent, en quelque sorte, qu'elles transgressent les normes sexuées en se promenant seules dans les espaces publics après une certaine heure. Donc là, on est bien dans du contemporain, on n'est plus au 19e siècle, mais on voit que les injonctions à se promener dans l'espace public subsistent. Pour ça, je voudrais citer un article contre lequel nous on s'est beaucoup battu et que vous aviez peut-être lu ou entendu parler, qui était un article qui s'appelait « Conseils faits aux femmes », qui a été donc enlevé du site, donc qui était sur le site du ministère de l'Intérieur jusqu'à octobre 2013. Donc nous, on était intervenus pour le demander à la ministre qu'elle le supprime, et il avait été prévu que ce soit fait. Ça a fini par être fait finalement parce qu'un blog avait fait aussi le buzz autour de ça, et ça a enclenché le mouvement. Et cet article disait, en gros, de par leur sexe et leur morphologie, les femmes sont victimes d'injonctions particulières. Et suite à ça, venait un ensemble de conseils qui disaient, si vous êtes chez vous, verrouillez bien votre porte, rajoutez un Judas, soyez sûr d'avoir un Judas sur votre porte, ayez ce qu'on appelle, enfin, les verrous avec les chaînettes ou les verrous qui font autobloquant sur les portes. Ne mentionnez pas votre statut de femme seule sur votre boîte aux lettres. Si vous sortez, marchez d'un pas vif, serrez votre sac bien serré sous votre bras. Allez à l'inverse du trafic, de façon à ne pas être victime d'un vol à la tire par une voiture ou par une mobylette. Si quelqu'un s'arrête à votre hauteur en voiture, ne vous approchez pas. Faites en sorte que la personne sorte de son véhicule pour venir vers vous. En gros, le site du ministère de l'Intérieur vous mettez dans une situation qui était extrêmement angoissante. Et vous disiez, en deux mots, restez chez vous, et une fois que vous êtes chez vous, n'indiquez pas votre statut de femme seule. Or, lorsque l'on connaît notamment les chiffres de violences qui sont faites aux femmes, notamment de violences sexuelles, on sait que une majorité des femmes qui sont agressées sexuellement le sont par quelqu'un de connu, souvent dans l'entourage, voire même à l'intérieur de la famille. Donc il y a vraiment cette dichotomie qu'on a relevée entre une injonction qui est faite à ne pas aller dans l'espace public qui serait dangereux pour les femmes, de rester dans l'espace privé, là où a priori elles sont en fait beaucoup plus à risque finalement de subir une agression sexuelle. Donc on s'est dit c'est intéressant parce que les femmes qu'on ne voulait pas voir dans l'espace public au 19e siècle, on est en train de leur redire la même chose, c'est-à-dire ne sortez pas dans l'espace public encore aujourd'hui. Donc ces injonctions subsistent. Donc on s'est dit, là, on tient une clé, et ça va être très intéressant de voir comment tout ça continue à s'articuler, y compris de façon institutionnelle. Et dans les réponses qu'on a cherché à apporter, on s'est interrogé sur des actions qui sont menées aujourd'hui, des actions censée être vertueuse, censée faire avancer les choses en termes d'émancipation des femmes dans l'espace public, en termes de pouvoir d'agir. Et on s'est intéressé en particulier à un outil qui a été mis en place à titre expérimental par le ministère des Droits des Femmes, qui vient d'être aujourd'hui élargi à l'ensemble de la France, donc qui maintenant n'est plus un sujet d'expérimentation, mais qui est un sujet qui a été développé, donc un outil qui a été développé, qui s'appelle les marches exploratoires. Je ne sais pas si vous avez entendu parler des marches exploratoires, peut-être ici. Alors, ces marches exploratoires, elles ont pour objectif de permettre à des femmes de aller ensemble dans un quartier, d'une part pour se sentir bien, c'est-à-dire pouvoir le faire à plusieurs et donc oser aller dans l'espace public. Ça, c'est le premier volet, le premier étage. Le deuxième étage, c'est d'aller dans cet espace public et de pouvoir pointer ce qui peut être anxiogène dans cet espace public et voir ce qui pourrait être amélioré. Voilà. Alors, nous, on s'est dit au début, on s'est dit tiens, ça peut être intéressant, parce que nous travaillons sur ces marches exploratoires et nous travaillons sur le fait d'effectivement d'évoluer dans l'espace public pour pouvoir le réinvestir. Et ce que nous avons observé à travers ces marches exploratoires, c'est qu'elles étaient en fait à la lecture beaucoup plus contraignantes qu'il pouvait y paraître et qu'elles n'étaient peut-être pas si émancipatrices pour les femmes. Alors, en fait, ce qu'on a revu, c'est que les marches exploratoires, donc l'exploration des territoires par le prisme normatif des genres, qui est un élément clé de notre travail, donc nous on le voit comme compter, évaluer, ce que je vous disais tout à l'heure, comparer, mesurer, documenter les territorialités en collaboration avec les personnes qui les habitent, les construisent, les traversent ou les vivent. Ça, c'est une partie intégrante de notre méthodologie pour comprendre ce qui se joue et ce qui se passe dans les espaces publics. Mais ce qui différencie notre démarche avec les marches exploratoires, c'est que nous ne nous focalisons pas spécifiquement sur l'angle sécuritaire. Or, ça, c'est l'angle qui est choisi par le gouvernement et c'est ce qui est mis en avant dans les marches exploratoires. Car si ce sujet nous semble avéré et souvent central dans la façon dont l'espace public est vécu, c'est-à-dire qu'on parle souvent de la question de peur, et donc réinvestir l'espace public, c'est bien vaincre ses peurs, il nous paraît aussi risqué d'aborder ces marches à travers ce prisme de la sécurité. Ça nous paraît risqué parce que c'est enfermant. En effet, dès lors que l'on étudie un territoire uniquement via ce prisme et en collaboration avec des partenaires identifiés, et ça c'est ce qui est marqué dans le guide des marches exploratoires, c'est-à-dire que ces partenaires identifiés sécurité, c'est-à-dire les services de police, la préfecture, des référents de sécurité des associations, risque est pris de ne pouvoir s'extraire du débat. C'est-à-dire que on ne peut trouver de solution qu'à l'intérieur de ce contexte, de ne pas pouvoir faire le pas de côté qui permettrait de trouver des solutions autres. Il y avait une étude qui avait été faite, qui était d'ailleurs très basique et... Cette étude, elle était parue sur un site généraliste dit féminin qui s'appelle Terra Femina et qui partait de questions qui étaient posées de façon d'ailleurs non genrée. C'était une étude qui avait été faite sur Internet. Et la question, en gros, c'était, il y avait 10 questions, mais ça réduit à une seule, ça donnait de façon très caricaturale. Si vous sortez dans un endroit plutôt sombre le soir, est-ce que vous vous sentez en sécurité? Je caricature à peine, hein, mais j'ai le guide, si vous voulez, je pourrais vous le montrer. Il y avait une question qui était est-ce que vous osez marcher dans la rue? Une autre, qu'est-ce que vous ressentez quand vous traversez un endroit sombre? Qu'est-ce que vous ressentez quand vous traversez un endroit mal fréquenté? Est-ce que vous osez traverser un pont désert la nuit? Enfin, c'était des questions vraiment assez invraisemblables. Et donc, suite à ce questionnaire, ils ont fait un nuage de tags qui représentait les réponses. Et donc, évidemment, les mots qui ressortaient le plus, on voit police, policier, patrouille, agent, agresseur, commun, défense, transport, etc. Et donc, nous, on s'est dit, tiens, c'est intéressant. Et on avait pris ce nuage de tag et on avait fait un groupe de travail. Et donc, on avait confié ce nuage de tag à un groupe de travail. Et puis, on avait confié à un autre groupe de travail un nuage de tag avec les antonymes. Et ce qui a été très intéressant lors de cet atelier, c'est que les personnes qui avaient le premier nuage de tag ont finalement assez vite trouvé des solutions à ce qu'il faudrait mettre en place pour en termes de sécurité, d'organisation de l'espace. Mais les personnes à qui on a donné ces éléments-là étaient assez désemparées. C'est-à-dire qu'on n'a pas l'habitude de traiter l'espace public de façon positive et d'essayer plutôt de s'ouvrir, de trouver des outils qui iraient plus vers de la bienveillance, vers une autre utilisation de l'espace. Et tout le monde, c'est moi qui gérais ce groupe-là, tout le monde me disait mais qu'est-ce que tu veux dire en fait, je comprends pas. Qu'est-ce qu'on en fait en fait. Et c'était assez intéressant de voir qu'on est vraiment conditionné à avoir une réponse assez automatique sur des questions sécuritaires, mais dès lors qu'on ouvre le champ pour penser à la ville autrement, c'est beaucoup plus impalpable et qu'il faut vraiment faire un travail sur soi pour essayer d'apporter des solutions et des définitions. Voilà, c'est un petit aparté là-dessus, mais c'était pas inintéressant de vous montrer comment on a pu avoir des logiques qui pouvaient se faire autour de ça. Mais si je reviens au contenu du guide. Nous, ce qu'on a vu à travers ce guide, c'est que il y avait deux choses qui pouvaient nous rappeler finalement le 19e siècle, qui étaient d'une part le maintien de l'ordre social par les femmes, donc on a bien vu là à travers ce qui était mis en place, et puis la stérilisation des rues. Et si je reviens donc plus spécifiquement au contenu du guide, je lis ce qui a été mis en place, ce qui est dit au début. L'aménagement de l'espace public a un impact incontestable sur le sentiment d'insécurité. Cette relation espace public-sécurité a été mise en évidence par différentes études criminologiques, dont il ressort que l'acte de délinquance dépend pour une grande part des caractéristiques de l'environnement spatial et de la situation matérielle. Le lien entre l'environnement urbain et la sécurité est apparu à la fin du XVIIIe siècle, époque à laquelle la notion de ville s'est transformée et s'est orientée sur le bien-être, l'hygiène et la sécurité des populations urbaines. Les aménagements, tels que l'élargissement et l'éclairage des rues, ont contribué à lutter contre le brigandage. Au milieu du XIXe siècle, les grands travaux réalisés à Paris par le baron Haussmann se sont inscrits dans cette démarche. La prise de conscience de cette relation a été formalisée par la théorie du defensible space, donc l'espace défendable, développée en 1972 par Oscar Newman. Donc là, on est vraiment sur le début, l'introduction du guide des marches exploratoires. On est en 2013, quand ce guide est sorti, en France. C'est un guide, déjà, premièrement, qui a été inspiré d'une expérience qui a été faite au Québec en 1980 et qui a été repris texto. Donc déjà, on peut voir qu'il y a une adaptation d'un guide qui est repris aujourd'hui sur une expérience qui perdure depuis 30 ans maintenant au Québec et qui n'a pas du tout été réadaptée. Donc il a été pris stricto sensu et qui finalement s'inspire d'Haussmann, de la façon dont Haussmann a embelli les villes, et nous on parle plutôt de stérilisation des villes. Alors, la proposition qui est faite ici de s'inspirer de la méthode d'Haussmann pour contribuer à lutter contre le brigandage nous interpelle car elle pose les bases d'une organisation sociale que nous pensions révolue. La construction de la ville au XIXe siècle, c'est l'affirmation de l'ordre bourgeois avec laquelle arrive la notion de ville policée. Dans la ville classique, on commence à voir des bâtiments qui accueillent les délaissés, les déshérités, les femmes de petite vertu, les enfants abandonnés. Au XIXe siècle, si Haussmann lance les grands travaux hygiénistes avec le slogan « Paris embelli, Paris agrandi, Paris assaini », en sous-texte, nous observons bien une opération de nettoyage qui utilise l'embellissement et l'hygiène comme paravent pour y faire régner l'ordre militaire et l'ordre social. Le percement des grands boulevards et des grandes avenues est en effet conçu pour éradiquer les quartiers populaires et permettre de donner du canon contre les insurrections. La ville, dans son vrai sens haussmannien, appartient désormais à l'armée, donc aux hommes. Les femmes bourgeoises sont contenues dans l'espace privé pour y être protégées de l'armée et ne pas être en contact avec le petit peuple. Les femmes populaires, tissus d'ouvrières bien présentes dans la ville industrielle, sont quant à elles invisibilisées à leur tour, avec en charge le contrôle des familles et des maris. Ce que le système haussmannien a mis en place est un processus d'ordre social matérialisé par un contrôle des rues par le vide et un contrôle de la famille par les femmes depuis l'espace privé, la maison, l'appartement. Car parallèlement à ce nettoyage de rue, un rôle social est bien donné aux femmes, présenté comme une avancée dans leurs droits, comme une promotion sociale dans l'ordre de la famille, mais à une condition, qu'elles laissent les hommes en charge de la sphère publique. Ce contre quoi nous mettons en garde, dans la façon dont le guide méthodologique des marches exploratoires est formulé, c'est une possible reproduction du modèle mis en place au XIXe siècle qui cantonne les femmes dans un rôle de maintien de l'ordre social. Car le guide des marches exploratoires nous dit également « À travers ce dispositif, il s'agit d'être davantage à l'écoute des préconisations formulées par les habitants, et notamment des femmes, qui sont les plus exposées aux violences sur la voie publique. » Donc on attend vraiment des femmes qu'elles viennent d'elles-mêmes nous pointer ce qui ne va pas. Ces marches exploratoires développent un modèle participatif à l'intérieur duquel les femmes trouvent ainsi un espace d'expression et de propositions concrètes qui répondent à leurs attentes légitimes. Donc on est vraiment là en train de gérer leurs peurs. Elles sont aussi, et c'est là où nous on commence à tiquer un petit peu, un outil d'évaluation critique de l'environnement et une aide à la décision qui permettent aux décideurs locaux de trouver des solutions au bénéfice de l'ensemble de la population. En effet, lorsque les femmes ne sont plus exclues, l'inclusion profite à tous. Donc si je reprends en point, ça veut dire permettre aux femmes de devenir des protagonistes principales d'un processus d'amélioration de la sécurité de l'environnement, développer l'intérêt porté par les habitants du quartier à leur environnement urbain quotidien dans une perspective d'amélioration de leur cadre de vie, développer chez les participantes un sentiment d'appropriation et de contrôle de leur environnement, renforcer les capacités d'autonomie des femmes par cette démarche citoyenne et leur permettre de se percevoir en tant qu'actrices sociales efficaces. Alors c'est là, nous, on a un sentiment de déjà-vu, parce que si je reprends un résumé d'éducation pratique de 1873 par Madame Paul Caillot, d'ailleurs Madame Paul Caillot, c'est P-A-U-L, hein, c'est, on la nomme bien après son mari, déléguée pour l'inspection des écoles primaires des filles, on découvre des liens extraordinaires entre l'éducation à l'ordre et la formation du sentiment de culpabilité. Le texte instaure parenté des homologies profondes entre l'ordre dans le ménage, l'ordre de la conscience et l'ordre du monde. Sous le titre général de l'ordre, on glisse ainsi d'une manière incongrue et apparemment sacrilège de la poussière sur les meubles à la grandeur de Dieu et à l'invariable mouvement des astres. Remonter jusqu'à la grandeur de Dieu et à l'invariable mouvement des astres. Donc ça, c'est dans la socialisation des filles du XIXe siècle par Evelyne Fuma. La question que nous posons ici en mettant en parallèle le rôle des femmes au XIXe siècle et le rôle qu'elles peuvent jouer dans l'espace public aujourd'hui est la suivante. Sommes-nous une fois encore en train de contraindre les femmes à un rôle premier d'actrice sociale dans le maintien de l'ordre, en leur attribuant des fonctions pacificatrices dans la cité, et ce faisant, ne renforçons-nous pas les stéréotypes que nous cherchons à combattre? Et ça, c'est vraiment un trait qui nous est apparu de façon flagrante, puisque nous avons suivi plusieurs marches exploratoires, et qu'en définitive, plutôt qu'au moment d'émancipation des femmes, ce que nous avons surtout observé, c'est qu'au final, on leur demande vraiment de pointer, on est plutôt dans du diagnostic en marchant de la ville, c'est qu'on leur demande de pointer ce qui ne va pas dans un quartier, si cet immeuble aurait besoin d'être rénové, si le trottoir... On les remet dans une fonction sociale, d'ordre, d'organisation sociale, à destination de tous, c'est-à-dire est-ce que le trottoir a la bonne marche, est-ce qu'il faudrait peut-être réparer ici, est-ce que les poussettes pourront passer à cet endroit? On est vraiment sur des choses qui ne les sortent pas du tout, en fait, du cadre, et qui ne les met pas du tout dans un cadre élargi de ce que peut être la construction de la ville, mais plutôt un cadre rétréci de leur quartier avec une vision très locale et sur de l'action ponctuelle et sociale. Alors ça, c'est le point 1, donc remise des femmes dans une position de contrôle de l'ordre, et qui nous paraît, nous, être renforcée encore une fois ce rôle d'attribution sociale et qui ne s'étend pas aux autres fonctions de la ville. Et deuxième impact de ces marches exploratoires, que l'on qualifie de stérilisation de l'espace public. Car ce qui est demandé également dans le guide des marches exploratoires, c'est de sécuriser les lieux. Donc on est en une action légitime et commune dès lors que l'on veut lutter contre le sentiment d'insécurité, de sécuriser les lieux. Il s'agit souvent de renforcer les éclairages, de se protéger des agressions en bouclant les lieux de vie, des grilles, des codes, d'élargir et dégager les espaces afin de donner un maximum de visibilité, de nettoyer. Les raisons peuvent être tout à fait compréhensibles puisqu'il s'agit a priori d'éviter les conflits ou les agressions. Or, comme l'explique très bien l'architecte urbaniste Nicolas Soulier dans son ouvrage « Reconquérir les rues », le mécanisme de défense que l'on croit opportun d'adopter peut s'avérer plus dangereux que ceux dont il nous défend. Et en nettoyant les rues pour les rendre plus sûres, se produit simultanément un phénomène de stérilisation qui, au final, les rend souvent froides, vides et anxiogènes. Et dès lors que je ressens de l'anxiété, je vais souhaiter la mise en place de plus de mesures de sécurisation, le cercle vicieux est donc lancé. Et c'est vrai que si on reprend encore une fois le guide des marches exploratoires, ce qui est finalement pointé, c'est de dire il vous semble qu'un bosquet peut représenter un danger parce que quelqu'un pourrait se cacher derrière, on va demander à ce que ce bosquet soit éliminé. S'il y a une dent creuse entre deux bâtiments, eh bien on va demander à ce qu'un grillage soit installé. Si un endroit vous paraît trop sombre, on va l'éclairer. Alors, je dis pas qu'il faut pas éclairer les lieux, hein, mais il y a une organisation assez systématique qui finalement crée une stérilisation des espaces. Et si je prends l'exemple de... Je vais prendre deux exemples. Je sais pas si vous connaissez Amsterdam ou les villes du Nord, mais quand on se promène dans les villes du Nord, il n'y a pas de volets. Et quand on se promène dans la rue, de fait, il y a la frontière entre l'espace public et l'espace privé est assez poreuse. C'est-à-dire que sans regarder dans les intérieurs sortent un petit peu quand même, parce que ne serait-ce que par la lumière, elles sortent. Et même si je passe dans la rue, le fait de pouvoir entreapercevoir qu'il y a une activité à l'intérieur, qu'il y a une vie, de même, moi, je vais me sentir en quelque sorte rassurée, puisque la vie est très proche. En revanche, si je passe dans une ville française, par exemple, je veux dire, le soir, quand les volets sont fermés et que les grilles sont bouclées, je vais devoir parfois traverser une rue entière sans apercevoir l'espace de vie, sans pouvoir percevoir la vie, sans même entreapercevoir ce qui peut se passer dans les jardins. Et ce manque de porosité va créer une forme d'anxiété. Je l'ai encore vécu il y a quelques jours, j'étais à Nantes, j'ai fait une présentation, je suis rentrée le soir. J'étais dans une zone déserte, toutes les grilles étaient fermées, les portes de garage étaient fermées, je ne pouvais pas voir les lumières à l'intérieur. Et je me suis dit, en définitive, est-ce que je suis à l'aise? Non, je ne suis pas très à l'aise. Et qu'est-ce qui se passe? Le réflexe, quand on ne se sent pas à l'aise, c'est d'aller demander au maire, aux personnes qui gèrent la ville, d'améliorer cette situation et de la rendre moins anxiogène. Et les réponses sont souvent assez caricaturales, c'est-à-dire que les réponses, ça va être de fermer encore plus les lieux ou de rajouter des éclairages, souvent des éclairages un peu même offensif, et qui participe à la stérilisation. Donc, ces guides de marche exploratoire, pour nous, ont deux impacts. Le premier impact qui est sur la question de la socialisation des femmes et la sociabilité, et le deuxième qui est sur la stérilisation des espaces. Pour ces raisons-là, nous, il nous semble très intéressant, d'une part, de sortir du rôle social des femmes, donc de mener un certain nombre d'actions qui va non pas être dédiées à requalifier l'espace par un prisme de sécurité, mais de requalifier l'espace pour trouver les pistes qui offrent plus de mixité dans l'espace. Première piste, d'abord, c'est de doser l'espace public et de vaincre ses peurs pour oser l'espace public. C'est pour ça qu'on a monté notamment cet atelier qui s'appelle « Même pas peur ». Et puis, l'autre axe, c'est aussi de réfléchir à qu'est-ce qui fait mixité dans l'espace public, d'observer les outils en termes d'urbanisation, d'aménagement de l'espace, qui vont créer plutôt une sorte de fertilisation et qui vont provoquer du coup une envie d'exister et de rester dans l'espace public plutôt qu'une envie de fuir l'espace public et de s'en retrancher. Donc, c'est à travers ces outils-là qu'aujourd'hui, nous, on essaie de fonctionner. Donc, poser le partage, la question des partages du territoire en amont des projets d'aménagement. Quelle ville je veux et pour qui? Et quand on fait ça, quand on travaille avec les villes, on parle par exemple des budgets genrés, donc des budgets sensibles au genre. Ça veut dire que pour tel euro investi, vers quelle personne cet euro va-t-il aller? Et quand on travaille sur le gender budgeting, par exemple, on s'aperçoit que il y a certaines choses pour lesquelles c'est très flagrant. C'est-à-dire que si je mets 50 millions d'euros pour construire un stade, il va être occupé à 95% par les garçons. Donc ça, c'est une piste. Alors, c'est une des plus flagrantes, mais elle est vraie pour de nombreuses autres choses. On peut réfléchir en termes d'équité, par exemple. Alors, si on parle d'équité, on peut parler des toilettes publiques. L'égalité voudrait que les toilettes publiques, pour faire des toilettes publiques, on se dise, si j'ai 5 WC pour les hommes, j'ai 5 WC pour les femmes. Là, on est dans l'égalité. Mais en fait, l'équité, c'est qu'il faut sans doute plus de WC pour les femmes, parce qu'elles passent plus de temps dans les WC. Donc, si on veut de l'équité, il faut réfléchir encore ce paramètre-là. Or, on voit bien que la plupart du temps, il y a souvent plus de WC pour les hommes, parce qu'il y a les WC en dur, plus les pissotières. Donc, on s'aperçoit que très souvent, en nombre de mètres carrés, il y a plus de WC pour les hommes que pour les femmes. Et même quand c'est à égalité, on n'est pas encore dans l'équité. Donc là, on voit qu'il y a des réponses qui peuvent se faire de façon un peu différente. La deuxième chose aussi, c'est de travailler de façon transversale. J'ai parlé tout à l'heure de transversalité. On ne peut pas construire la ville et faire changer la ville si on ne travaille pas avec l'ensemble des dimensions qui font ville. Je vais citer un exemple. Nous travaillons en ce moment sur Villiers-le-Bel, et qui est une ville donc citée, qui a été vraiment construite très en dehors de Paris, avec pour aller à Villiers-le-Bel un RER qui ne distribue qu'une partie de la ville, et ensuite un système de bus qui va relier une partie de la ville à l'autre. Suite aux événements que certains peuvent connaître qui ont eu lieu à Villiers-le-Bel, où il y a eu des émeutes en 2007, il y a eu une sorte de repli des gens de la ville, et notamment des femmes, qui n'osaient plus sortir. Et du coup, de fait, les bandes qui ont pris le pas sur l'espace public, donc il y a eu un effet qui s'est amplifié. Et de ce fait-là, les femmes n'utilisaient plus le bus. parce que le bus, il n'y en avait qu'une ligne, et donc comme il n'y en avait pas beaucoup, il était investi par les bandes, et qui caillissaient le bus ou qui investissaient les arrêts de bus. Quand les femmes ont décidé de ressortir dans la rue, il y a 3 ans, elles ont créé donc un collectif 29 juin. Ça s'est créé à l'occasion d'un événement et de l'assassinat d'un jeune homme, d'un jeune étudiant. La première chose qu'elles ont fait, c'était d'aller voir le STIF, qui est l'organisme des transports d'Île-de-France, pour demander d'une part à ce qu'il y ait des lignes de bus en plus, des rotations supplémentaires, y compris le soir et surtout les week-ends, de façon à permettre de pouvoir sortir dans la ville et surtout de rajouter beaucoup plus de circulation, de façon à ce que le petit groupe ne puisse pas monopoliser ces espaces de mobilité et de fait que les femmes puissent réinvestir les transports en public, ce qui a tout à fait fonctionné. Mais il y a eu aussi tout un travail autour du logement, autour de ce qui pouvait se faire sur la culture locale, au niveau des associations. Donc il y a un ensemble de travaux qui se sont faits simultanément, les associations locales aussi au niveau du théâtre, on réfléchit sur ces questions-là. Donc on a vu que la culture a été mobilisée, les mobilités ont été mobilisées, le logement a été mobilisé. Il y a eu un travail qui s'est fait aussi les possibilités en termes d'emploi localement. Donc on voit bien qu'une approche ne peut pas se faire en termes de genre uniquement sur un seul vecteur et en silo. Tout doit être travaillé ensemble de façon un peu simultanée. Enfin, le dernier point, c'est qu'il faut qu'on arrive à dépasser la pensée bicatégorielle, c'est-à-dire cette pensée femme-homme, ce schéma femme-homme dans lequel nous sommes socialisés. Et qu'il faut qu'on sorte des stéréotypes par préjugés et surtout sortir de la binarité et de pouvoir remettre l'identité complexe. Et là, c'est pas facile parce qu'on nous renvoie systématiquement dans nos rôles de femmes et d'hommes. Et nous, on a un travail énorme à faire là-dessus, et on s'aperçoit, et j'en parlais tout à l'heure avec Lucie, que c'est pas tout à fait simple. C'est-à-dire que dès qu'on veut aborder la question des identités et qu'on va voir les municipalités, on nous dit « Ah là là, là, pas touché, vous vous rendez compte, avec la manif pour tous, si on aborde des questions LGBT ou si on parle de ces sujets-là, ça passera pas. » Donc on s'aperçoit que quand on va sur le terrain, on commence par parler égalité femmes-hommes et puis qu'il faut arriver par des manières détournées à parler d'identité, à parler de ressenti, à parler de corps dans l'espace et à faire avancer les choses. Donc même pas peur, c'est un projet qu'on a eu, donc qui a commencé avec cet article du ministère de l'Intérieur qui nous avait vraiment choqué. Donc on avait commencé par écrire une tribune dans Libé où on a démonté cette histoire de l'injonction à la peur. Et puis après on s'est dit qu'est-ce qu'on en fait maintenant. Alors une des premières choses c'était de se dire ça va être compliqué de travailler sur le champ des hommes. Il est très difficile de changer les autres. Par contre, il y a une chose qu'on a trouvée assez efficace, c'est de se changer soi-même. Je vais vous donner un exemple. Moi, je fais partie du groupe d'activistes La Barbe. Et à La Barbe, quand on commence à intervenir dans un groupe et qu'on intervient, par exemple, dans un conseil d'administration où on a là les chefs d'entreprise qu'on voit constamment à la télé, qui sont les caïds du CAC 40 et qu'on va intervenir dans un endroit où on n'est pas attendu, ça a pas l'air comme ça, mais c'est assez impressionnant à faire. Et quand on y va au début, on est toujours à se dire mais qui va monter en premier, qui va oser dire le texte. Et je vous cache pas qu'à chaque fois que j'ai lu un texte, en général, j'ai mangé la première phrase parce que c'était tellement impressionnant. Mais suite à ces interventions, donc je sais pas si vous connaissez La Barbe, ou je peux vous expliquer en 2 secondes ce que c'est, mais en gros c'est l'idée, c'est quand il y a des assemblées, donc les assemblées de pouvoir sont souvent ne sont que composés de 80% d'hommes, on va dire, ou 90 ou 95%, parfois 100% d'hommes. Donc c'est d'intervenir lors d'un conseil d'administration, d'intervenir lorsqu'il y a un panel d'experts, et de mettre des barbes, et de se mettre derrière chacun des experts, et de quelque part grossir le trait en chaussant nous aussi les habits des hommes, en caricaturant en mettant des barbes, et en lisant un texte qui caricature les hommes, mais en les félicitant. Donc on va dire, bravo messieurs, vous n'êtes que 95% aujourd'hui, mais attention, une femme est présente dans votre panel, le verre est dans le fruit, elles ne sont pas capables, vous avez raison, ceci est une affaire d'hommes, etc. La Barbe existe depuis 2008 et j'ai fait beaucoup, beaucoup d'interventions. Suite à ces interventions, chacune d'entre nous s'est dit, notamment 5 ans après, quand on a fait un peu le bilan, qu'est-ce qu'on a changé? Et on s'est aperçu que on a peut-être un peu changé les hommes. Ça, c'est pas sûr. Par contre, on s'est changé nous-mêmes, ça, c'était évident. C'est-à-dire que personne qui n'est passé à La Barbe ne peut dire aujourd'hui qu'elle n'a pas été changée. On a toutes le sentiment que plus rien ne peut nous résister. Et donc ce sentiment-là, ce sentiment de force, il nous a paru absolument essentiel, et dans Jean Réville, c'est une chose qu'on essaie de mettre en avant aussi. Donc même pas peur, c'est ça a été un slogan qu'on a mis en place, et l'idée, ça a été de dire d'une part, de permettre à des femmes, mais des hommes aussi, parce qu'on a fait des ateliers mixtes, de sortir avec ce slogan et de pouvoir aller dans la rue et de transgresser déjà le fait de pouvoir écrire dans la rue. Et ça, c'est pareil, mine de rien, ça paraît simple parce que les rues sont extrêmement taguées. Aujourd'hui, beaucoup de gens prennent l'espace public. Mais c'est pas si évident que ça, que de taguer la rue. Et moi, je sais, quand je suis allée à ce premier rendez-vous où on avait organisé un atelier Même pas peur, j'avais des craies dans ma poche et j'ai marqué sur le trottoir Même pas peur au sol, et j'avais l'impression que la moitié de ma rue, la rue me regardait. Enfin, je me sentais pas si à l'aise que ça. Et puis, mais une fois que je l'avais faite, j'ai senti un peu le sentiment de puissance. Donc l'idée, c'est de travailler avec des femmes, d'abord sur le slogan Même pas peur, déjà d'oser aller le mettre dans la rue, soit avec notre pochoir, soit en travaillant sur des textes du 19e siècle. C'est-à-dire qu'on prend le pochoir et puis on imprime notre texte, notre slogan sur des textes du 19e siècle. Et puis cet atelier permet du coup de relever que dans ce texte, ben, il y a toutes ces phrases qui sont magnifiques sur justement l'utilisation des trottoirs ou la façon dont on est chaussé. Et puis peut-être le ramener à des choses qu'on peut vivre aujourd'hui. Donc ça, c'est le premier point, c'est de faire l'atelier ensemble et de discuter sur qu'est-ce que la peur et qu'est-ce que la place des femmes à travers la littérature. Puis bon, petit à petit, on a glissé aussi des ouvrages contemporains et puis aussi des magazines comme Cosmo, Biba et autres magazines. Et puis à partir de là, on colle le slogan Même pas peur dessus. Et après, on va ensemble ou par petits groupes le mettre dans l'espace public. Donc ça, c'était la phase 1. La phase 2, ça a été c'est ce qu'on a fait à Montreuil ici, ce qu'on a fait aussi à Aubervilliers, ça a été de prendre le slogan Même pas peur, mais aussi de demander aux personnes participantes de créer leur propre slogan. Et là, l'idée, c'est que chaque personne puisse dire ce qu'elle a envie de dire dans l'espace public, l'affirmer, le donner à voir. Et après, du coup, on répertorie tout ça, on prend des photos de l'endroit où ça s'est fait, et puis on peut indiquer pourquoi les personnes ont voulu inscrire ce slogan dans la rue à tel endroit. Donc on est vraiment dans un exercice d'empowerment. L'idée avec cet outil de Même pas peur, c'est que tout le monde se réapproprie l'espace public et qu'on le laisse en place dans l'espace public. Et je vous cache pas qu'on a fait cet atelier à Nantes au mois de février, et à chaque fois que je retourne travailler à Nantes, j'y vais tous les 15 jours à peu près en ce moment, j'avais utilisé des crêpes biodégradables. Elles sont pas si biodégradables que ça, finalement, je me suis rendu compte, parce que il y a toujours Même pas peur qui est écrit à côté du tram, et j'ai un petit sentiment de plaisir à chaque fois que je passe au-dessus. Et je pense que pour les femmes qui ont, et les hommes aussi, parce qu'il y en a qui ont participé, qui ont mis ces éléments-là dans l'espace public et qui passent après et qui continuent à voir les éléments toujours collés là, il y a quelque chose d'assez fort sur l'emprise qu'on peut avoir sur cet espace. Je crois qu'il est très très important, d'une part, de bien montrer pour nous comment il y a des mécanismes qui sont extrêmement ancrés dans la façon dont l'espace public est construit et comment ces mécanismes se pérennisent, et qu'on voit que même dans des opérations qui sont faites aujourd'hui destinées à émanciper les femmes, on s'aperçoit qu'en définitive, il y a des agendas cachés, mais je vais partir du fait que c'est pas le cas, mais en tout cas que ces outils finalement ont des effets pervers et qu'il faut vraiment réussir à les contrarier, ces effets pervers, donc à essayer de travailler autrement. Donc c'est vrai que nous, sur les marches exploratoires, ce qu'on préconise aujourd'hui, c'est plutôt de réaliser des marches sensibles, c'est-à-dire d'aller dans l'espace, de réfléchir avec ses cinq sens, qu'est-ce que j'entends dans cet espace public, qu'est-ce que j'ai envie de vivre ici, où est placé mon corps dans cet espace, et donc travailler sur quelque chose d'un champ beaucoup plus ouvert que le champ stricto sensu de la sécurité. Et puis après, dans la construction de l'espace public, et bien d'essayer de voir comment on reprend place. Et qu'est-ce qui va recréer de mixité dans cet espace? Donc, reprendre place, c'est faire des actions comme Même pas peur, ou c'est encourager des actions. Alors, on réfléchit beaucoup autour d'outils comme les jardins partagés, qui semblent créer beaucoup de mixité, ou de redéfinition de ces espaces entre l'espace public et l'espace privé, retrouver des porosités entre espace public et espace privé qui semblent nous amener des solutions en termes de sécurité, si on doit revenir à ces questions-là, qui sont beaucoup plus intéressantes à notre sens. Travailler sur les ambiances de la ville, travailler sur les lumières, travailler sur un ensemble de points qui vont changer l'espace public vers, pour le coup, plus de vivre ensemble tel que nous on peut le concevoir, et essayer d'enlever à chaque fois qu'on le peut toutes ces injonctions qui finalement ramènent les femmes et les hommes dans leur cadre et les laissent dans les espaces normatifs. Alors, comme j'aime bien conclure là-dessus, je vais le faire quand même. J'avais pris un petit élément d'Alice au Pays des Merveilles sur la question de l'empowerment, qui est un peu sur la fin d'Alice au Pays des Merveilles, et sur reconquérir sa place. Alice devient de plus en plus audacieuse lors du procès pour déterminer qui a volé les tartes de la reine de cœur. Elle sait qu'elle est en train de retrouver sa taille normale, qu'elle est en train de redevenir elle-même. Alors que le Loir a prévenu qu'elle n'a aucun droit de grandir ici, dans ce tribunal, Alice décide de rester. Et s'offre en spectacle. Elle parle fort, contrarie le jury, interrompt le juge et lui répond effrontément. Elle ne fait preuve d'aucun respect pour les choses et incongruités de la loi ou de ce représentant. « Qui êtes-vous pour juger ?» demande Alice. « Vous n'êtes qu'un jeu de cartes. » À ces mots, toutes les cartes montent en l'air et lui retombent dessus. Au réveil d'Alice, le chaos est à l'ordre du jour. Et l'on sent bien que le système judiciaire du Pays des Merveilles ne sera jamais plus tout à fait le même. Merci beaucoup.